podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv, Alexandre Barlier.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau dossier podcast de Frontières des séries. Aujourd'hui, Caprica, qui est une série américaine d'une saison composée de 18 épisodes. Si le nom Caprica ne vous est pas étranger, c'est que vous avez probablement déjà regardé Battlestar Galactica. Et pour cause, cette série se présente comme la préquelle de la célèbre série de l'espace. Créée par le trio Rémi Aubuchon, David Hake et Ronald D. Moore, Caprica sera diffusée comme sa grande sœur sur Sci-Fi en 2010. Exit le casting de la série originelle car l'histoire de Caprica se déroule plus de 50 ans avant les terribles événements de Battlestar Galactica. On retrouve Eric Stoltz dans le rôle de Daniel Greystone. L'acteur est notamment connu au cinéma pour ses participations à The Mask et Pulp Fiction. Il partage l'affiche avec Ezaïe Morales que l'on avait découvert dans Jericho. Côté féminin, la série compte du beau monde avec Paula Malcolmson, la maman de Katniss dans la saga Hunger Games, mais également apparue dans Lost, Cold Case et Sons of Anarchy, et Alessandra Torresani dont les seuls faits d'armes sont des apparitions dans Les Experts, Malcolm et Urgence. Si Battlestar Galactica avait révolutionné le genre du space opéra, Caprica affiche directement sa différence avec sa consœur. Point de bataille galactique au menu, mais plutôt une saga familiale teintée de science-fiction. Résultat, la série ne convaincra ni les fans de la première heure ni un nouveau public en ne réunissant qu'un maximum de 1,5 million de téléspectateurs, un score bien trop faible par rapport aux attentes de la chaîne. On analyse aujourd'hui la série avec Tilman Villette et Nathanaël Picasse. Bonjour à vous deux.
Bonjour Alex.
Bonjour.
Alors Nat, tu avais beaucoup apprécié Battlestar Galactica, tu t'es penché sur la question, comment expliquer le désintérêt du public pour une série qui démarrait pourtant sous de belles auspices?
Je tenais déjà à rappeler en fait que même si Battlestar Galactica a effectivement connu un beau succès critique et une grande communauté de fans aussi, c'est une série qui n'a jamais non plus connu un immense succès populaire. Elle avait pu tenir 4 saisons grâce à la mobilisation des fans, mais elle n'avait jamais explosé les scores aux États-Unis ou un peu partout dans le monde. Elle reste néanmoins une série qui méritait le coup d'œil pour sa réflexion politique et son aspect visuel. Dès lors, c'est vrai que je me suis lancé dans Caprica avec un certain intérêt. Et j'ai compris immédiatement pourquoi la série n'a pas plu aux fans de la première heure, puisque l'épisode pilote donne le ton. Pas de bataille galactique, pas d'exode, pas de génocide, pas de vaisseau interstellaire, pas de sentiment d'urgence. On est dans quelque chose de radicalement différent, puisque Caprica tranche directement avec sa grande sœur en prenant le parti d'une saga familiale, tout en faisant en même temps des appels du pied et en multipliant les clins d'œil à l'histoire de Battlestar Galactica. Et en fait, en prenant ce parti pris, la série se met directement en position du grand écart, puisque d'une part, on sent l'envie des créateurs de raconter une autre histoire, et d'autre part, leur envie de répondre à la question des fans qui souhaitaient découvrir comment les Cylons ont été créés et ce qui a provoqué cette fameuse guerre entre les Cylons et les humains.
Il faut peut-être rappeler, pour ceux qui n'ont pas vu, ce que c'est qu'un Cylon.
Les Cylons, c'est des sortes de robots ultra développés qui ressemblent, enfin en tout cas on apprend ça dans Battlestar Galactica, qui ont réussi à prendre la forme humaine et qui sont doués d'une intelligence propre et qui n'obéissent plus aux hommes en fait, et qui sont rebellés contre les hommes et qui provoquent un génocide dans Battlestar Galactica en essayant d'exterminer complètement la race humaine. Alors ici, on n'est plus du tout dans cet aspect-là, on est plutôt dans les prémices de cette guerre, et la série cherche surtout à séduire un public plus féminin que la série originelle. Elle nous propose donc de suivre le quotidien de deux grandes familles en parallèle. On a d'un côté les Greystone, qui sont ceux qui vont créer les fameux Cylons, et pourquoi et comment ils vont les créer. Et de l'autre côté, les Adama. Alors là, pour les connaisseurs de Battlestar Galactica, c'est un nom qui n'aurait pas inconnu, puisque un de leurs descendants deviendra le fameux Amiral Adama, qui gère le Battlestar Galactica, et qui lui va provoquer la fin de la guerre et qui va éradiquer aussi pas mal de Cylons. Caprica commence déjà, et ça surprend très vite, dans une séquence assez déroutante, dans une boîte de nuit. Les gens, ils semblent déchaînés, ils dansent, boivent, ont des relations sexuelles, ils sont nus, se tuent les uns entre les autres, expriment des instincts les plus bas, et personne ne semble s'en offusquer. Donc c'est assez violent, c'est assez particulier. On s'attendait à un truc très science-fiction, et là on est dans quelque chose de limite gore.
J'avais jamais vu l'affiliation entre Battlestar Galactica et True Blood.
Voilà.
Là tu viens de faire le parallèle.
Oui, voilà, mais ça fait vrai, effectivement un petit peu ça, effectivement au début. Et donc on y découvre en fait dans cette séquence un groupe de jeunes qui ont visiblement un plan, mais on ne sait pas trop ce qu'il en est. Ils échouent d'ailleurs à le mettre en place, et c'est là qu'on découvre en fait qu'il s'agit en réalité d'un monde virtuel. C'est une sorte d'espèce d'immense jeu vidéo à la Sims dans lequel les gens peuvent se projeter, s'immerger et exprimer d'ailleurs toutes leurs pulsions. Et ils accèdent à ce monde virtuel par le biais d'un holoband. C'est une sorte de lunette qu'ils appliquent sur le visage et qui leur permet en fait donc d'être projetés dans le monde virtuel et d'y évoluer en tant qu'avatar. On se rend compte rapidement d'ailleurs que ce groupe de jeunes est mené par une jeune fille ambitieuse et intelligente qui s'appelle Zoé Greystone, et elle se révèle en fait être la fille de Daniel Greystone, qui est l'inventeur du holoband, qui est à la tête d'un véritable empire sur Caprica. Autant que son père, elle est surdouée en informatique, elle a réussi à créer un avatar indépendant d'elle, mais pourvu de la même personnalité et passé. Donc en fait, on se rend compte dans cette séquence qu'il y a la Zoé Greystone et puis il y a une autre Zoé qui a la même personnalité. Et comment elle a créé ça? Elle a concentré toutes les données informatiques sur elle, à l'image d'une sorte d'un immense Google ou Facebook qui possède énormément d'informations sur vous. Et en compilant toutes les informations qu'elle a sur elle, elle arrive à recréer sa personnalité, en fait, avec toute l'histoire, avec sa façon de réagir. Et donc c'est un personnage qui a les mêmes souvenirs que Zoé et qui agit exactement comme Zoé. Mais contrairement à son père, Zoé considère que ce monde virtuel est une menace pour l'humanité. Elle a été autrefois séduite par ses possibilités, mais elle y voit désormais une forme de perversion et un sentiment qui est décuplé par sa réflexion religieuse, puisqu'elle a la foi en un dieu unique, contrairement à l'immense majorité des Capricains dont la religion est largement inspirée des Grecs, puisqu'ils vénèrent plusieurs dieux. D'ailleurs, la plupart des planètes qui gravitent autour de cet immense système ont des noms qui sont très largement inspirés des signes du zodiaque. On a Taureau, on a Gémenon, voilà, Caprica pour le Capricorne, vous aurez compris la suite. Pour en revenir à Zoé, cette foi en fait la pousse à quitter le nid familial lors d'une fugue avec quelques amis. Elle souhaite en fait rejoindre la fameuse planète Gémenon, qui est le berceau de la religion monothéiste, et elle n'y parviendra pas, puisque dans le train qui les mène au vaisseau spatial, l'un de ses amis se révèle être un terroriste au service de ce fameux dieu unique. Il se fait exploser en tuant par la même occasion tous les passagers dans le train. C'est ainsi que commence vraiment l'histoire. Donc on s'attendait à voir effectivement l'histoire de Zoé Greystone, et puis elle se fait exploser dès le départ. Mais alors, bien sûr, se pose la question, que devient l'avatar de Zoé si la personne originelle est morte?
Alors, je suis morte. Elle est morte. Oui. Pourquoi t'as du sang partout? Je comprends pas. Je vois aucune blessure sur ton corps. Je sais pas trop. Peut-être à cause de la bombe. La bombe. Mais t'étais même pas là. Tu pouvais pas y être. Je sais. Mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Zoé bossait sur un protocole de biorétroaction. Elle voulait me faire ressentir tout ce qu'elle ressentait. Qu'on soit synchrone, elle et moi. Ça n'avait jamais vraiment fonctionné, mais il s'est passé un truc bizarre. Comme si je l'avais senti mourir. Si Zoé est morte, qu'est-ce qui m'arrive à moi? Elle avait des projets pour toi une fois qu'on serait sur Gémenon, mais je sais même pas ce qu'elle avait en tête. C'est plus prévu qu'on parte sur Gémenon, pas vrai? Non. Sans elle, qu'est-ce que je suis? Elle est moi. Et je suis elle. La seule partie d'elle qui vit encore. Je t'en prie, Lessie, qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Il faut que tu m'aides. Calme-toi. J'ai aucune des réponses que tu attends, d'accord? J'étais même pas sûre, après sa mort, que tu serais encore là. Tu as peur de moi? Pourquoi? J'ignore qui tu es. Je suis ta meilleure amie. Non, mon amie, c'est Zoé Greystone. Et tu n'es pas elle, ok? Tu es quelque chose qu'elle a créé. Tu n'es rien d'autre qu'une chose. Zoé m'avait promis qu'un jour, je verrais le monde réel. Le plus dingue, c'est que je sais déjà à quoi ressemble votre réalité. Parce que je m'en souviens. Tout comme je me souviens avoir grandi avec toi. Non, c'est la vérité. Je suis jamais allée chez toi. Et je n'ai jamais joué dans ta chambre, ni vomi dans ta salle de bain, ni emprunté ton maquillage ou essayé tes fringues. Je ne suis pas une personne. Ça, je le sais. plus, j'ai l'impression d'en être une.
Je suppose que vu que Zoé est désormais décédée, on va plutôt alors se rabattre sur les réactions de ses parents.
Et de son entourage, effectivement, et notamment de ses parents, Daniel Greystone et sa femme Amanda, qui tentent bien que mal de vivre leur deuil, mais qui découvriront petit à petit que leur fille était liée d'une certaine manière à cet attentat, puisqu'elle aussi avait cette foi dans un Dieu unique, et qu'elle était d'ailleurs l'objet de toutes les convoitises, notamment de Sœur Clarisse, la directrice de l'école qui était fréquentée par Zoé, puisque Sœur Clarisse se révèle assez vite monothéiste aussi, et extrémiste et polygame de surcroît, donc on a un peu la totale, et elle fait d'ailleurs pression sur les anciens camarades de Zoé pour retrouver la trace de Zoé, puisque on se rend compte que son avatar existe toujours, et qu'elle a la même personnalité que Zoé, donc en fait Zoé a ressuscité quelque part et est éternel. D'ailleurs, Greystone met la main sur les travaux de Zoé parce qu'il n'avait pas conscience que sa fille était une surdouée en informatique et il se rend compte que son avatar continue de vivre dans le monde virtuel. Il n'a d'ailleurs plus qu'une seule ambition, c'est de trouver un moyen de transférer sa fille du monde virtuel au monde réel et par là même, il découvrirait bien sûr le don de l'immortalité. Et sa recherche coïncide précisément avec son contrat avec l'armée qu'il est en train de mettre au point puisqu'il est actuellement en train de développer une sorte de robot soldat doté d'une intelligence artificielle tellement poussée qu'il peut improviser face à certaines situations. Et un concours de circonstances dans l'épisode pilote l'amènera à transférer l'avatar de Zoé dans un des robots. Et donc le premier Cylon est enfin né puisqu'on a un robot doté d'une personnalité totalement unique. Le problème, bien sûr, c'est que Zoé déteste son père parce qu'il a créé ce monde virtuel, parce qu'elle est en conflit avec elle, parce que c'est une adolescente, et elle n'a pas l'intention de lui rendre la vie facile. Elle ne se révèle pas en tant que Cylon, donc elle ne veut pas lui faire comprendre que c'est elle qui se retrouve dans le corps du robot, mais son père s'en doute, en fait. Et donc, il y a une guerre des nerfs entre le père et le robot qui se met en place, une guerre psychologique dont Amanda, la maman, n'a pas vraiment conscience, mais dont les effets seront dévastateurs sur elle et sur sa santé mentale. Elle va lutter contre ses démons internes et va se laisser séduire, d'ailleurs, par l'amitié de Sœur Clarisse, qui essaye toujours de mettre la main sur l'avatar de Zoé. Donc on voit que Zoé est vraiment le centre des attentions. Parallèlement, la série nous fait suivre le quotidien de Joseph Adama, qui est originaire de la planète Tauron. C'est un avocat qui a à cœur de se faire accepter dans la société capricaine, mais sa famille lui rappelle sans cesse ses origines et ses valeurs, dans laquelle l'honneur, la fraternité, la famille ont une place de choix. Et la plupart des Taurons vivent dans une sorte de communauté qui flirte dans les affaires louches à la limite de la clandestinité. Le look résolument rétro de cette famille, puisqu'on a des chapeaux feutres, les impairs, les vieilles voiture, ça nous renvoie de manière assez, même trop explicite, à la mafia des années 50 et 60. Et en plus, ils ont carrément une sorte de patriarche qui s'est fait appeler le guapo, qui gère cette communauté, et c'est une sorte de chef autoritaire auquel tout le monde doit obéir sous peine de se voir exécuté. Donc le parallèle avec la mafia est un petit peu surligné. Et Joseph Adama va se retrouver malgré lui lié au destin des Greystone puisque sa femme et sa fille périssent justement dans l'épisode pilote puisqu'ils étaient présents dans l'attentat du train et poussé par son frère qui est un tueur à gages, homosexuel. Ça c'est un personnage que j'aimais beaucoup parce que son homosexualité n'est pas évoquée en fait. On se rend compte qu'il est marié à un homme mais jamais ça ne fait l'objet d'une phrase ou d'une explication, c'est juste un fait. Et donc poussé par son frère, il cherche à se venger du groupe Greystone lorsqu'il lui apprend en fait que Zoé est en partie responsable de l'attentat. Mais les relations entre les deux hommes, entre Joseph Adama et Daniel Greystone, vont se compliquer puisque Joseph va découvrir que Daniel a utilisé les travaux de Zoé pour ressusciter sa fille sous forme d'un avatar et donc il veut lui aussi récupérer sa fille qui se retrouve dans le monde virtuel. Surtout que sa fille est coincée, n'arrive pas à gérer cette nouvelle existence qu'elle a parce que c'était pas son truc à la base d'être dans le monde virtuel et surtout c'est une existence dans ce monde dans lequel elle ne peut pas mourir. Elle se retrouve coincée dans un monde virtuel, dans un jeu dans lequel les gens peuvent se connecter, mais si les gens meurent dans ce jeu, ils sont rejetés du jeu et ils ne peuvent plus y retourner. Et en fait, elle devient une sorte de déesse dans ce jeu, puisqu'elle a la capacité de ne pas mourir. Et donc Joseph va devoir plonger dedans pour tenter de revoir sa fille sans se faire tuer lui-même dans le jeu, parce qu'alors il ne pourra définitivement plus la voir. À la saga de ces deux familles se joint une troisième qui représente une menace en filigrane tout au long de la série, c'est la famille de Sœur Clarisse dont j'ai déjà un petit peu parlé. On est face à l'illuminée totale puisqu'elle gère un groupe de terroristes bien décidés à perpétrer un attentat spectaculaire sur Caprica afin de révéler à tous le bien fondé de leur croyance en un dieu unique et pour y parvenir elle souhaite mettre la main justement sur Zoé qu'elle considère comme un cadeau de Dieu puisqu'elle a rapidement compris le potentiel de Zoé et elle sait qu'elle a découvert le secret de la vie après la mort grâce à son programme d'avatar. Et elle veut mettre la main dessus pour que les martyrs de cet attentat soient ressuscités, en fait. Vous voyez un petit peu le parallèle qui peut être fait par rapport aux attentats terroristes actuels en disant, voilà, comme ça vous pourrez partir au paradis et vous aurez 220 vierges qui vous attendent. Et pour ce faire, la fameuse sœur Clarisse prend sous son aile Lessie, qui est une amie de lycée de Zoé, qui a échappé à l'attentat. Et cette dernière est la seule au courant que Zoé est toujours vivante dans le monde virtuel et essaye d'ailleurs d'extirper Zoé dans cette lutte qu'elle a entamée entre son père et elle. Le personnage de sœur Clarisse est un personnage qui est intéressant et en même temps très agaçant, puisque elle est à fond dans la religion et donc on l'entend dans ses sermons. Ça devient un petit peu lourd au niveau de la série. Par contre, et c'est des fois intéressant parce qu'on se rend compte qu'elle arrange souvent la vérité de sa religion selon ses intérêts.
Singh a bien fait son boulot. Les Greystones en prennent pour leur grade à la télé. C'est violent. La gloire nous attend.
Je t'envie, tu sais.
Tu rigoles, j'espère. Pourquoi tu m'envierais ? Tu vas pas nous rejoindre ?
Je peux pas, non. Nestor n'a pas créé d'avatar pour moi et à présent, il n'est plus des nôtres.
Ce n'est qu'un détail technique.
Guider ces gens au paradis est un très grand privilège. Un privilège que je suis malheureusement obligée de sacrifier parce que Dieu a choisi un autre chemin pour moi. Je me connecterai à un holoband ordinaire pour vous accueillir à votre arrivée, gloire à Dieu.
Ça oui, je m'en remets à lui. Et sa lumière me guidera. Dieu est extrêmement puissant, Clarisse. Sa lumière se répand partout. Elle se répand aussi sur toi.
Ce greffon de l'histoire, donc encore en plus de la congrégation, ou en tout cas des croyances de sœur Clarisse, est-ce que ça alourdit pas déjà un programme qui n'était pas super léger avec ces deux familles et ce travail de deuil, ce monde virtuel? Est-ce que cette justification de réflexion par rapport à la religion, etc., c'était vraiment nécessaire?
C'était pas nécessaire. Déjà, c'était un point que j'avais déjà souligné dans Battlestar Galactica qui alourdissait fortement la série, alors que la série était très intéressante sur sa réflexion politique. Là, ici, on est à nouveau dans cette réflexion sur la religion. Ça alourdit inutilement leur rythme. On voit déjà avec ces familles, c'est déjà très dense comme histoire, parce que je suppose que pour ceux qui n'ont pas vu et dans l'explication que j'ai donnée, alors à suivre, ça doit pas être très très évident parce qu'il y a beaucoup d'interconnexions entre les personnages. Et donc la série a laissé rapidement sur le carreau les téléspectateurs qui n'ont pas suivi tous les épisodes. Il y a beaucoup d'arcs narratifs en plus qui sont sur 2-3 épisodes, qui se terminent puis qui reprennent quelques épisodes plus tard. Il y a des personnages d'ailleurs qui disparaissent pendant 2-3 épisodes et on sait pas ce qu'ils deviennent et puis qui réapparaissent. Et donc c'est vrai que si on se souvient pas ce qui s'est passé avant, ça devient très lourd, très très indigeste.
Et j'imagine aussi la plupart des fans de Battlestar qui ont dû un petit peu se demander sur quoi ils étaient tombés, vu que s'ils arrivaient sur la série, en tout cas pour comprendre d'où venaient les Cylons, ils ont dû être un peu déçus, je pense.
Ça c'est clair. Ça c'est clair parce qu'il y a très peu d'action en fait, en plus. Donc là, on est vraiment comme c'était annoncé comme ça, comme une saga familiale. Peut-être qu'ils s'attendaient à avoir un petit peu plus, et au final, non. En plus, le problème, c'est que la qualité des intrigues entre les familles est très inégale. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé l'histoire de la lutte entre Zoé et son père. On voit la crise d'adolescence, on voit qu'il s'aime malgré tout. On voit un père qui a du mal à gérer le deuil de sa fille et qui espère pouvoir la revoir. Par contre, le parcours qui amène Joseph Adama à embrasser ses origines, c'est plus bancal. Et puis, bien sûr, cette réflexion sur la religion, la croyance, c'est très très lourd. On constate la volonté des créateurs de la série d'avoir voulu mettre en place une série avec beaucoup de fond, de réflexion psychologique, mais ils courent trop de lièvres à la fois. Résultat, ils bâchent certains thèmes, se montrent certes grossiers avec d'autres. Et quand ils s'appesantissent sur le fanatisme religieux, ça donne parfois jusqu'à la nausée. Surtout que on ne comprend pas toujours quel est leur point de vue par rapport à ça. Notamment avec le personnage de sœur Clarisse, qui utilise la voix de Dieu pour justifier toutes ses exactions. On sent qu'on critique ça. D'un autre côté, le rejet du terrorisme d'une religion monothéiste n'est pas clairement démarqué. Il y a une confusion qui se cristallise dans le personnage notamment de Lessie, puisque cette dernière est envoyée sur Géménon pour apprendre à devenir une parfaite soldat de Dieu, et elle se rebelle contre les méthodes qui sont franchement peu reluisantes de ces camps de lavage de cerveau, qu'on pourrait relier au Jesus Camp aux États-Unis. Là, c'est pas le cas aux États-Unis, bien sûr, mais on y tue les mauvais élèves qui ne témoignent pas assez leur soumission au Dieu unique. Alors donc, pour le message d'amour, on repassera, évidemment. Et elle se rebelle contre ça, et c'est elle qui finit par devenir la mère supérieure de cette religion. Cette religion qui va inciter les Cylons à exterminer la race humaine, en plus. Allez comprendre aussi
C'est un message un peu Ouais, ambigu quand même.
C'est très ambigu et moi ça me pose vraiment problème. Et ça me posait déjà problème dans Battlestar Galactica et c'est encore plus poussé ici. Je pense qu'ils auraient nettement plus gagné en lucidité, en fluidité, en édulcorant ces thèmes et en se focalisant plutôt sur l'histoire entre le père et sa fille et comment ils créent un silo en fait.
En t'écoutant, on a l'impression qu'ils ont voulu trop mettre dans les premiers épisodes. Oui. Peut-être que s'ils avaient allégé la chose, la série aurait attiré peut-être plus de monde, aurait pu continuer et avoir justement cette histoire complète sur plus de saisons. Peut-être.
Complètement. Et puis surtout, on voit qu'il y a un peu panique à bâbord. C'est, voilà, ça ne fonctionne pas, on va plutôt aller dans une direction. Et donc, c'est vrai que pendant un ou deux épisodes, on voit Joseph Adama qui cherche sa fille dans un monde virtuel. Et donc, on sort pratiquement de la trame de la série. On se dit, tiens, on va dans une autre direction. Et puis, ça se termine un peu en autre boudin. Il se fait tuer dans le monde virtuel et donc, il peut plus revoir sa fille. Et voilà, on passe à autre chose. Et d'ailleurs, sa fille va disparaître de la série. Enfin, je veux dire, on n'aura jamais de suite ou de fin par rapport à elle. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle est dans un monde virtuel, mais ce qu'elle devient, parce qu'à un moment, elle s'associe avec l'avatar de Zoé. Mais ce qu'elle devient après, on ne sait pas. C'est un petit peu fatigant à suivre.
Mais au vu des audiences qui étaient évidemment pas fameuses, est-ce que les créateurs ne se sont-ils pas dit ok, on balance tout parce qu'on n'aura probablement pas une deuxième saison possible à diffuser.
C'est ce qu'ils ont fait justement. Ça comporte 18 épisodes. Ils terminent l'arc narratif global de cette saison. Et en fait, ils offrent un épilogue, en fait, qui retrace tous les événements marquants qu'ils auraient dû, en fait, mettre en place dans le reste de la série. Une sorte d'accéléré comme ça. Parce qu'évidemment, alors on comprend pas pourquoi certains personnages qui étaient les uns contre les autres finissent par s'associer par la suite. Et puis voilà, c'est un petit peu étrange. Et puis surtout qu'il y a un truc qu'on comprend pas, c'est qu'on comprend que Zoé est le premier Cylon. Et puis surtout, ce n'est pas un personnage qu'on retrouve après dans Battlestar Galactica, alors qu'elle n'a pas la capacité de mourir. Donc on aurait dû la retrouver dans Battlestar Galactica. Donc je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont pas repris un personnage de Battlestar Galactica, en fait, pour vraiment faire le lien un peu plus clair.
J'ai cru lire d'ailleurs qu'il y avait pas mal de fanfictions qui avaient été produites, qui expliquaient créer en fait ces petits passages manquants finalement entre Caprica
oui,
et...
Oui, parce que là il y a beaucoup de passages vides effectivement. Un autre problème de la série, c'est un casting qui est assez bancal, puisque Eric Stoltz est relativement transparent dans le rôle de Danielle Greystone. L'actrice qui joue sa fille, pourtant, qui a été largement mise en avant dans les campagnes de publicité, qui rappelait un peu Desperate Housewives, qui était souvent avec une pomme à la main, le fruit défendu, le centre de l'attention. Eh ben, cette actrice a plus une tête à claque qu'autre chose. C'est vraiment pas facile de s'attacher à elle, parce qu'elle est censée être la clé de tout, et on a juste envie de lui foutre des baffes. Malgré tout, je pense que la série reste intéressante et elle m'a quand même surpris là où je l'attendais pas en fait. Cette relation entre le père et sa fille était très intéressante. Le personnage homosexuel aussi a quelque chose de très intéressant et c'était d'autant plus surprenant qu'ils le font évoluer dans un monde très masculin et en aucun cas il a des traits féminins qui n'auraient pas collé. Mais c'est vrai que la série est très bancale et quand on la voit, on comprend pourquoi elle n'a pas fonctionné.
Pour tout fan de la saga originelle Battlestar Galactica, il faut quand même la voir ou pas ?
Non, je pense pas, parce que si vous vous attendez à une vraie explication ou une vraie filiation avec Battlestar Galactica, vous allez être déçu. Même si, effectivement, on y voit la création des Cylons, etc. Mais tout le reste, on est plutôt dans une saga familiale. Donc c'est plutôt les amateurs peut-être de soap opéra avec une petite pointe de science-fiction qui vont y trouver leur compte.
Et bien voilà, c'est là-dessus qu'on va refermer ce dossier. On se retrouve très très vite sur fds.tv.
Retrouvez Aux frontières des séries sur le web. www.afds.tv.